France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin avec le magazine Elle à table, comment réussir sa blanquette, son tagine, son curry, son welsh, son cassoulet, son bake-off ou sa carbonade, des plats mijotés riches et réconfortants. Alors quelles sont les astuces pour les réussir à coup sûr et les pièges à éviter? Pourquoi les plats mijotés sont-ils souvent meilleurs le lendemain? Et puis nous verrons s'il faut forcément se lâcher l'hiver sur ces plats mijotés. A-t-on vraiment besoin de manger davantage par temps froid? Et vous, quels sont vos plats mijotés en cocotte préférée? Qui vous les a transmis? Quelles sont vos madeleines de Proust? Quelles sont vos astuces pour les réussir? J'aimerais que la France entière nous appelle pour partager ces plats mijotés, les plats mijotés de sa région. Standard et WhatsApp ouvert au 01 45 24 7000, mais également en usant du bouton réagir sur l'appli Radio France. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Allez, Rébéi.
Et un trio de choc pour nous accompagner jusqu'à 11h. Bonjour Danielle Jerkens.
Bonjour Ali.
Directrice de la rédaction de Elle à table. Elle a eu une spéciale mijotée de la potée au safran à l'ossobuco aux agrumes, vin délicieux, plat d'hiver. Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Ali.
Ravi de vous accueillir. Vous êtes journaliste, animateur de Petit Plan en équilibre tous les jours à 11h45 sur TF1, mais aussi à d'autres horaires.
Oui.
Vous publiez chez Solar Cuisine une année en cuisine avec Laurent Mariotte. Et vous animez votre chaîne YouTube, qui est excellente.
Oui, c'est gentil.
Et avec ça, le
oui,
principe,
absolument.
Mais avec ça ?
Et avec ça, c'est de rencontrer des artisans, des poissonniers, des bouchers, des boulangers, de parler de leur métier en profondeur. Voilà.
C'est très bien fait. Bonjour Vincent Ferniaud.
Bonjour Ali.
Vous êtes un pilier de la cuisine populaire. Vous avez récemment publié chez Albin Michel « On veut des patates », un cri du cœur. Et vous animez sur France 3, Centre Val-de-Loire, une émission.
Oui, moi j'ai
Signé
un petit programme court qui s'appelle Signé Ferniaud.
Ouais. Du lundi au vendredi à 12h15.
Et absolument, et toujours manger ses votés sur Public Sénat. Voilà.
Alors, l'éventail des plats mijotés est très large, mais c'est quand même l'un des marqueurs de nos cuisines hexagonales, mais également des cuisines du monde entier, Danielle Jerkens.
Oui, en fait, dans le monde entier, on cuisine des plats mijotés, je pense, depuis à peu près toujours. On pense que les premiers plats mijotés ont été cuisinés dans des pots, cousue, qui était mise au-dessus du feu. Alors on peut dire les peaux ça brûle, non, parce qu'en fait elle était remplie d'eau et on mettait des choses dedans, alors j'imagine de la viande, des légumes, des racines, ce qu'on trouvait, et on laissait cuire comme ça longuement. Et en fait c'est une cuisson qui permet, qui est finalement pas très coûteuse en énergie, parce qu'une fois qu'on a monté l'ensemble à peu près à 100 degrés, on peut mettre un feu très très bas. C'est une cuisson qui permet d'attendrir et de consommer des morceaux qui sont quasiment impossibles à consommer autrement. C'est une cuisson qui permet notamment dans les viandes de sortir le collagène, etc., qui est très bon pour la santé.
C'est quoi le collagène qu'on trouve
on le trouve dans les tendons.
Dans les tendons, dans certains muscles aussi, par exemple les joues, qui sont des muscles que les animaux, notamment herbivores, utilisent beaucoup. C'est en fait une substance qui permet de rassembler, de tenir les fibres et qui ne se lâche, qui ne se délite qu'au bout de plusieurs heures de cuisson. Et où qu'on aille dans le monde, les plats mijotés sont absolument essentiels. C'est très récent en fait qu'on fasse du muscle grillé, entre guillemets.
Du snacké.
Vincent Ferniaud.
Oui, parce que le plat mijoté, c'est ce qui nous unit. Parce que le plat mijoté, par définition, c'est le plat de la maman. Enfin, de la maman, ou du papa, si c'est le papa qui cuisine.
Ou de la grand-mère.
Mais, ou de la grand-mère, bien sûr, des grands-parents. Mais ça unit en cuisine, parce que, évidemment, c'est des plats pour la table entière, sont en général des plats généreux.
On fait rarement du mijoté pour une personne.
Oui, de plus en plus, c'est vrai, mais bon, les petites portions, c'est moins facile, parce que...
Faut congeler après.
Ah, voilà, exactement. Et puis, surtout, ça réunit dans la mesure où on est à table avec ceux pour qui on prépare le plat mijoté, alors que si on doit faire du snacké, du poêlé, du frit, etc., on est souvent en cuisine pendant que les autres sont à table.
Mais quel plus beau geste que de déposer la cocotte en fonte au centre de la table, Laurent Mariotte.
Mais oui, moi, pour moi, c'est une religion, hein, le mijoté. J'en fais vraiment toutes les semaines, minimum. Et ce que j'aime, c'est ce que disait Vincent, c'est ce côté rassurant. Il est rassurant pour celui qui le cuisine et il est rassurant pour ceux qui le mangent, le mijoté. Et effectivement, ce cérémonial de mettre la cocotte au centre de la table et de voir encore que ça bloblote après que c'est cuit pendant plusieurs heures, c'est magnifique, oui.
Daniel.
Et puis, c'est un autre avantage. C'est une cuisine, entre guillemets, à mon sens, un peu de paresseux. C'est très facile, le mijoté. On fait revenir deux, trois trucs, on en rajoute d'autres, on met de l'eau, pouf, on met tout ça un couvercle dessus et roule ma poule,
du
c'est
bouillon,
réglé.
Du vin.
Voilà.
Ouais. Et la conservation. Parce que avant d'avoir une chaîne de froid où on pouvait mettre ce qu'on, les restes au froid, on les laissait dans la cocotte ou dans le pot de cuisson. Et en fait, en le portant en température au-dessus de 100 degrés, ça stérilisait en
ça
quelque sorte.
Ça remettait à zéro.
Ça permettait d'en refaire le lendemain, le surlendemain.
Le plat mijoté revient en force. On ne compte plus le nombre de restaurants qui font de ce type de plat un argument décisif pour attirer les clients. Daniel Jenkins.
Je pense que ces dernières années, il y a eu énormément de plats de mode dans la restauration d'étrangers. On a fait le tour du monde en sortant pas de son arrondissement, c'est super, ou de sa ville. Et j'ai l'impression, alors est-ce que ça tient à l'actualité internationale? Est-ce que ça tient à aussi une économie en France qui n'est pas terrible hein, et des revenus qui sont en diminution? Je pense qu'effectivement le côté rassurant est extrêmement important. Ça permet de renouer avec une culture presque inconsciente, imaginaire. Et je répète, ce sont des plats qui ne sont pas forcément très onéreux à préparer. Donc c'est un triptyque qui répond extrêmement bien à l'époque.
Ni très technique, d'ailleurs, hein, parce qu'une cuisson mijotée, c'est une cuisson forcément à basse température, en tout cas au bouillotement, et donc c'est souvent l'eau qui est l'élément constitutif du plat, hein, dans lequel on jette des éléments. Donc ça n'est pas très technique, il n'y a pas des questions de température très précises ou de contenant très précis.
Il y a juste une règle quand même, c'est de ne pas être dans une forte ébullition, parce que ça va rétracter les viandes. Parce que ça va rétracter les viandes, et on va avoir quelque chose de ferme malgré les heures de cuisson. Donc c'est vraiment, il faut que ça sourisse, comme on dit, comme le pot-au-feu. Il faut vraiment des petites bulles à la surface, mais on est en dessous du feu moyen, mais on n'est pas au-dessus du feu moyen avec le mijoté.
On va y revenir et nous accueillons Anne. Bonjour Anne, bienvenue.
Bonjour Ali.
Bonjour, d'où appelez-vous Anne ?
De Besançon.
Alors quelle est...
Oui, allez-y, pardon. Vous remercie pour les émissions, pardon, et la variété des sujets abordés.
C'est gentil à vous.
Et la recette, c'était une recette de chou rouge cuisiné, qu'on cuit dans l'Est.
Dans l'Est ?
Je suis originaire d'Alsace.
Ouais.
Oui.
Mmh. Donc c'est du chou rouge mijoté ?
Oui. Et donc en fait, on fait revenir un oignon, on coupe son chou, on émince son chou rouge très fin, on le met dans la casserole, on le fait dorer 2-3 minutes.
Oui, alors on peut dire dans de la graisse d'oie, hein, en Alsace, au début, quand on fait revenir.
Ensuite, on l'arrose copieusement de vin rouge.
Copieusement.
Oui, un bon demi-litre, un peu d'eau. On
une
laisse
bouteille.
Mijoter au moins 1 ou 2 heures. Et une demi-heure avant de manger, on met des marrons, des pommes. Certaines mettent des lardons, moi je n'aime pas parce que c'est plus un légume pour moi. Et on accompagne ça d'un rôti de porc ou de bœuf et d'une bonne purée.
Si je puis me permettre, c'est la garniture traditionnelle de l'oie rôtie qu'on servait à Noël. Hein, c'était vraiment le plat d'hiver, le chou rouge aux pommes, hein, comme l'a dit Anne. Et c'est absolument délicieux parce que la pomme va adoucir énormément le côté un peu soufré du chou.
Anne, vous allez me faire aimer le chou rouge. Merci beaucoup pour votre merci pour votre recette. Et nous accueillons Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre, bienvenue.
Bonjour Ali, bonjour à toute l'équipe. Meilleurs vœux.
Meilleurs vœux à vous aussi. D'où appelez-vous Marie-Pierre ?
J'appelle de Toulouse.
Ah bah, vous me parlez au cœur. Bah forcément. Quelle est votre recette fétiche, votre recette d'enfance ?
Alors, ma recette fétiche, qui n'est pas de Toulouse, mais que j'utilise avec des saucisses de Toulouse, c'est le rouille à saucisse, parce que je suis originaire de l'île de la Réunion.
Très bien. Alors, comment vous le confectionnez, votre rouille à saucisse ? Quel est votre secret ?
Mon secret, qui n'en sera plus, hein. moi, j'utilise la saucisse de Toulouse. Bon, idéalement, de la saucisse fumée, c'est la meilleure. Hein, la Montbéliard, elle est très bien aussi. Je la fais un petit peu blanchir 5 minutes dans de l'eau chaude. Pendant ce temps-là, je coupe mes oignons rouges. Moi, je prends des oignons rouges parce que je trouve que ça a plus de goût. Beaucoup d'oignons. Je mets 2 tomates pelées parce qu'on est en hiver, mais sinon des tomates fraîches, c'est mieux. Et avant de les cuisiner, les saucisses, je les fais dorer. Et après, je les coupe en morceaux, je mets mon oignon, du curcuma de la Réunion, bien évidemment.
Évidemment.
Du thym, du jardin, si on en a, c'est toujours meilleur. Et puis, on laisse mijoter, voilà, tout simplement.
Et ça convoque quel souvenir, ce rougail saucisse, Marie-Pierre ?
Alors, à l'âge de 8 ans, je l'ai fait moi-même pour la première fois et je me suis coupé le doigt. Ah.
Ça donne du goût.
Oui, ça donne du goût. Mais maintenant, en coupant les oignons, justement, et donc j'ai appris à mes enfants, d'ailleurs, la recette, et à bien couper les oignons, avoir les doigts toujours parallèles à la lame du couteau pour ne pas se couper. Et je décline le rougail en version végétarienne, parce que depuis, je suis devenue végétarienne.
Et comment vous le déclinez en version végétarienne? Ça va intéresser nos auditrices et auditeurs qui ne mangent pas de produits carnés.
Oui, alors je prends, c'est toujours la même base, avec les oignons, les tomates, le thym, des fois je mets un petit peu de gingembre aussi, le curcuma. Et je prends des saucisses végétariennes que je fais dorer à la poêle. Je les coupe en morceaux et je fais mijoter. Et je les fais une fois. J'ai rien dit à personne.
Et ils n'y ont vu que du feu.
Ils n'y ont vu que du feu.
Merci beaucoup, Marie-Pierre.
Du paprika fumé pour relever le goût.
Et oui.
Si jamais les saucisses ne sont pas fumés. Un petit peu de paprika fumé.
Laurent Mariotte.
Oui, ça donne l'illusion un petit peu de la viande, le paprika fumé. Moi, j'ai fait une bolognaise de lentilles l'autre jour, pareil, dans laquelle je mets un petit peu de paprika fumé. Il y a un petit côté pas trompe-l'œil, mais trompe-goût qui est agréable.
Ouais. Merci beaucoup, Marie-Pierre, pour votre recette. Alors vous, quels sont vos souvenirs d'enfance liés aux plats mijotés, ces plats réconfortants qu'on partage en famille, entre amis, ce symbole de la cuisine ménagère dans le sens noble du terme, Daniel Jerkens.
Alors, comme il faisait très très chaud là où j'étais enfant, on était en Afrique centrale, c'est vrai qu'on faisait assez peu de plats mijotés, mais il y en avait un qui était pour moi une fête absolue, c'était un coq au vin que ma mère faisait de temps en temps, bon, avec un poulet évidemment, et elle le faisait en cocotte, et ensuite elle le mettait dans un plat au four, et elle le recouvrait d'une pâte feuilletée, sur laquelle elle faisait petits motifs aussi en pâte feuilletée avec une petite cheminée. Et je me souviens que je regardais ça. Alors, ça prenait évidemment des heures, ça sentait extrêmement bon. Et il y avait la promesse d'un festin. Et c'était, je me souviens, pour moi, quand j'étais enfant, alors moi, j'ai commencé à cuisiner dès 3 ans, donc j'étais vraiment obsédée par ça.
Très précoce.
Je vous raconterai un jour. En fait, j'ai fait des œufs brouillés pendant 4 jours d'affilée. Ma mère m'a dit, il faut élargir ton répertoire.
Tu vas arrêter ça.
Et c'était la promesse coq au vin de quelque chose qui était à la fois réconfortant, à la fois très élégant, parce qu'il y avait cette pâte feuilletée, etc. C'était merveilleux.
Laurent Mariotte, je m'adresse au Laurent que vous êtes, souvenir d'enfance.
Le pot-au-feu, moi j'ai grandi à la campagne dans une ferme avec mes grands-parents essentiellement, et c'est vrai que le pot-au-feu, je me vois encore avec ma grand-mère acheter au boucher ambulant des morceaux comme le paleron, la macreuse, faut le redire, sur les mijotés, ce sont des morceaux qui ne coûtent pas cher, à cuisson longue, donc voilà, on les anoblit entre guillemets par la cuisson, mais sinon, personne n'en voulait au départ de ces morceaux. Donc oui, c'est vraiment le pot-au-feu, parce que il y a plusieurs vies dans un pot-au-feu. Il y a le bouillon, il y a le consommé qu'on va transformer avec des vermicelles, je me souviens. Ensuite, les légumes. Et après, le lendemain, on fait des croquettes, on fait des hachis parmentiers.
La salade de bœuf.
La salade de bœuf, voilà, avec de la betterave. Voilà, c'est fantastique, ça.
Vincent Ferniaud.
Moi, j'avais une mère qui ne cuisinait pas, puisqu'elle faisait le même métier que nous. Elle faisait de la radio. Donc, elle n'avait pas trop le temps. Et mon père était un vrai gastronome. Donc, j'ai appris un peu sur le tard. Mais elle avait un plat, quand même, ma mère, qui était le veau aux carottes.
On peut la citer.
Christiane Collange. Elle faisait le veau aux carottes, c'était son truc, voilà, le veau aux carottes pour généralement le week-end. Et alors un quasi, et puis comme un bœuf aux carottes, mais avec du veau, donc c'est plus fin. Et bon, évidemment, pas cette sauce au vin, mais plutôt une sauce au bouillon, quoi.
Dans quelques instants, vous nous révélerez vos secrets pour réussir à coup sûr. Tiens, la blanquette de veau, et nous accueillerons Sophie qui nous appelle de Bretagne et qui veut partager son plat mijoté préféré. On se retrouve juste après avoir écouté Jacqueline Taïeb, Le cœur au bout des doigts, une chanson sortie en 1968, 10h20 sur France Inter.
Une fleur entre les lèvres, un sourire au coin des yeux, un regard rempli de rêves et de l'or dans les cheveux. Il éteint sa cigarette et me dit venez danser, comme c'est aujourd'hui ma fête, j'ai envie de vous aimer. Je m'avance Il me serre dans ses bras. Il me dit vous semblez triste et je ne lui réponds pas. Il me dit je suis poète et caresse mes cheveux. En levant un peu la tête, je vois qu'il a les yeux bleus. Le cœur au bout des doigts. Hey, 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 le cœur au bout des doigts.
Jacqueline Taïeb interprétait Le cœur au bout des doigts.
France Inter.
Et comment est votre blanquette?
La blanquette est bonne.
Hubert. Deux blanquettes et un pot de brouillé.
Grand bien vous fasse.
On me dit le plus grand bien de vous rend pas mal l'huile.
Je vous en sers un ramequin, vous ferez une idée.
Allez, Rébéi.
Et ce matin, dans Grand Main vous fasse avec le magazine et la table, des conseils et des astuces pour réussir vos plats mijotés au soubouco, pot-au-feu, bœuf bourguignon, goulash, tagine, poté. Et Sophie qui va partager son plat mijoté préféré. Bonjour Sophie.
Oui, bonjour Ali.
Bonjour, vous appelez de Bretagne, c'est ça?
Eh oui, de Bretagne.
D'où exactement?
Je suis à côté de Lorient.
Très voilà, bien.
On est un peu sous la tempête en ce moment.
Oula, mais oui.
Bon,
sous la tempête, il faut des plats mijotés pour bien tenir le coup.
C'est ça, c'est l'occasion de rester au chaud et de manger des bonnes choses.
Ouais, il y a trop d'eau.
Je me suis dit, je vais appeler Ali parce que... On peut pas parler de plats mijotés si on parle pas du kikafart breton.
Ah ben alors allez-y. Moi, j'étais breton pendant 2 ans de ma vie, donc allez-y. Je vous écoute avec grand plaisir parce que c'est vrai que c'est absolument délicieux.
Oui, alors le kikafart, c'est le pot-au-feu breton. Kik, ça veut dire viande, et farce, la farce, c'est la pâte à crêpes en fait qu'on utilise. C'est un pot-au-feu dans lequel on fait cuire de la pâte de blé noir, de la pâte de la crêpe de sarrasin et de la pâte de la crêpe de froment dans des petits sacs en toile.
Oula.
Et on fait cuire ces petits sacs en toile dans le pot-au-feu. Donc, à la base, on utilise les viandes qu'on utilise qu'on trouve en Bretagne, le bœuf et le porc. Donc on va faire cuire dans de l'eau froide du jarret de porc, de la poitrine de nicel, et puis du jarret de bœuf et de la palette ou de la macreuse, enfin voilà, ce qu'on utilise pour le pot-au-feu. Et puis de là, pendant 1 heure, on fait cuire la viande déjà dans l'eau, avec un oignon piqué avec du clou de girofle, voilà. Et à côté de ça, donc on prépare la pâte à crêpes salée au blé noir et la pâte à crêpes sucrée. Et on les met dans des tout petits sacs en toile. Alors souvent, on les coud, ça vient de famille en famille, mais sinon, moi j'utilise, vous savez, les petits sacs en toile qu'on a dans des... Alors je vais pas donner de marque, mais des, on va dire des magasins bio dans
oui,
lesquels on
bien.
Met les légumes, voilà, dans les petits tissus.
Ou des sacs de lentilles, hein. Souvent les lentilles sont vendues dans des petits sacs en coton, comme ça on peut les récupérer.
Comme
en
la toile de jute un peu.
Oui, c'est de la cuisson au torchon, hein. Quand on parle du foie gras cuit au torchon, au moment des fêtes, c'est ça au fond, c'est dans un linge.
Et pour terminer votre recette, Sophie, quel est le...
Alors la pâte pour le farce noir, donc je mets 500 grammes de farine de sarrasin, je mets deux œufs, ce que je mets pas d'habitude quand je fais la pâte à crêpes pour faire les crêpes, je fais nature vraiment sarrasin plus de l'eau et du sel, mais là pour le coup je mets 2 œufs dedans, et je mets du beurre salé, puis je mets aussi un peu de lait dans la pour cette cuisson là, et du sel, donc dans le petit sac de toile. Et puis pour le farce blanc, donc la pâte à crêpes traditionnelle, hein, farine de froment, des œufs, du lait, du beurre et du sucre.
Bah, très bien.
Voilà. Et
bon, vous nous envoyez un petit colis, Sophie. Merci. Hein, voilà, vous nous avez donné envie avec votre kigarfar, ce pot-au-feu breton.
Voilà, et donc je mets les légumes carottes, choux, pommes de terre à cuire avec la viande. Et tout ça, ça cuit pendant très longtemps.
C'est-à-dire
4 heures.
D'accord. Alors justement, vous, longue cuisson. Et on a une question. Merci beaucoup pour votre recette, Sophie. Marie-Noël qui nous demande, les plats mijotés cuisent très longtemps, ce qui utilise beaucoup d'énergie. Quelles sont les solutions, Laurent Mariotte?
Ben non, parce que ça va être du feu, comme je le disais, moyen, doux. Donc on commence effectivement avec une ébullition pour créer une osmose, et ensuite on baisse la flamme. Donc une cuisson conduite longtemps douce est presque moins énergivore qu'une cuisson vive pendant plusieurs minutes.
Et puis pour moi, il y a deux règles très importantes. La première règle, c'est au fond de ne pas trop dépasser 100 degrés pour que l'eau qui se trouve dans la viande ne sorte pas, pour pas que ça sèche la viande. Et puis, surtout, ce que disait Daniel tout à l'heure en début d'émission, les collagènes, ces morceaux qu'on trouve dans le gîte, par exemple, quand on fait un pot-au-feu, il faut environ 3 heures pour qu'ils se dissolvent, pour qu'ils fondent. Donc, cuisson très basse et au moins 3 heures pour des viandes où il y a du collagène dedans.
Et puis, dernier point, je répète, on fait rarement une petite quantité d'un plat mijoté. Donc, de facto, quand vous faites mijoter l'équivalent de 2-3 litres en masse, voire plus, ça vous fait plusieurs repas. Donc, finalement, ça représente assez peu d'énergie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a fait beaucoup de plats mijotés parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre en termes de morceaux. Et on utilisait un système qu'on appelle, de croix de mémoire, la marmite norvégienne.
Ah, ben tiens, justement.
Dans lequel... Je peux c'est dans ton je casse le script
non
ou
parce
pas
que pas non. du tout parce qu'il y a Paul qui veut parler de la marmite norvégienne voilà. Mais c'est Daniel Gerken, vous me faites des transitions extraordinaires.
je suis comme ça Ali, tout pour votre bonheur et ma devise.
Bonjour Paul.
Bonjour.
Vous allez bien? Vous vouliez nous parler justement de cette marmite norvégienne?
Ben oui, exactement.
Et c'est quoi le principe?
Je vous appelle de Saint-Nazaire. Et alors, le principe, c'est hyper simple. C'est on monte à ébullition tout le plat, donc il y a quand même pas mal de masse, parce que, comme on dit, on fait à manger pour plusieurs personnes. Et une fois que c'est bien chaud, que ça boue, on met dans la marmite norvégienne. Alors moi, j'ai une marmite norvégienne en bois, là, et qui marche super bien. Et en fait, en mettant 10, 15 minutes, voire 20 minutes, si on veut être sûr que ça soit chaud à cœur, et bien ensuite, on met dans la marmite norvégienne et on peut aller jusqu'à 8 heures de cuisson au-dessus de 63 degrés. Donc en fait, on évite les proliférations de bactéries. Donc c'est vraiment incroyable. Et moi, je l'utilise tous les jours.
Oui, la marmite norvégienne étant une caisse généralement en bois. Alors aujourd'hui, on en trouve des modernes, entre guillemets, mais traditionnellement, c'était rempli de chiffon.
Oui.
Ça pouvait être de la sciure, du chiffon, enfin quelque chose qui conserve la chaleur et dans lequel on déposait la cocotte. On remettait des chiffons de nouveau par-dessus, on refermait. Et en fait, ça permet de conserver effectivement la chaleur et d'avoir une déperdition extrêmement lente. Et
Daniel, c'est une isotherme ancestrale.
Voilà.
Et vous cuisinez quoi dans cette marmite norvégienne?
Eh bien alors, franchement, tous les plats qui existent quasiment. Et j'essaye aussi de trouver des alternatives végétariennes, parce que c'est vrai que souvent, le mijoté, c'est de la viande, et on connaît un peu l'impact de la viande par rapport au carbone. Et donc, il existe aussi des alternatives végétariennes avec du tofu, du seitan, des champignons. Et c'est aussi gourmand, c'est hyper bon, et c'est quand même un poil meilleur pour la santé. Et après, pour vraiment les grands fans de viande, c'est vrai que ça apporte toujours même ce petit goût. Donc on peut toujours en mettre, mais un peu moins. Donc c'est vraiment top, quoi.
Vincent Fernieux, je ne vous sens pas très fan du seitan.
C'est aussi gourmand. Moi, je préfère faire des plats de légumes quand j'ai envie de manger des légumes. Chacun plutôt que des goût, substituts de viande. Mais je voulais ajouter qu'on ne considère souvent pas le temps de refroidissement. Il faut savoir que les plats étaient souvent faits dans les fours de boulanger, dans les villages, et on jouait avec la déperdition de chaleur longue. Donc, quand vous faites même un plat au four, même mijoté, si vous mettez votre cocotte au four, éteignez votre four au bout d'un moment et ça va continuer de cuire jusqu'à refroidissement.
Merci Paul pour votre appel. Non mais tiens, restez avec nous parce que Catherine n'a pas de marmite norvégienne, mais vous utilisez un autre ustensile pour vos plats mijotés.
Allô ?
Bonjour Catherine, bienvenue.
Bonjour.
Vous appelez de l'île d'Oléron.
Voilà, oui. Alors moi j'aime aussi beaucoup les plats mijotés. C'est vrai que j'utilise la cocotte minute de beaucoup, même pas. Moi j'avoue que je trouve que ça permet de cuire longtemps aussi, sans doute beaucoup moins longtemps que quand on mijote dans une cocotte en fonte, par exemple, mais ça me donne d'excellents résultats. Moi, je fais ma blanquette, mon bourguignon à partir de joues de bœuf, je peux faire un civé de lapin, je peux faire plein de plats mijotés que je trouve bons. Et d'ailleurs, ma belle-mère qui me disait « Ah non, pas de cocotte minute », un jour, je lui ai fait un bourguignon qu'elle a trouvé délicieux, et je lui ai dit « Ben, vous savez, il est cuit à la cocotte minute ».
Et puis, les cocottes minutes se sont vraiment modernisées, Laurent Mariotte.
Oui, complètement. Et puis, alors là, on parlait de consommation d'énergie. Là, on consomme encore moins avec la cocotte minute, hein, parce que ça va plus rapidement. Sur les légumes, parfois, je trouve que ça peut altérer les couleurs.
Ça peut les dénaver.
Voilà.
Oui. Et puis, la cocotte minute, en fait, c'est un mix de pression, de surpression et de chaleur. Et donc, effectivement, autant sur la viande, ça marche très, très bien. Moi, je m'en sers très, très souvent. Ça permet de diviser par deux son temps de cuisson. C'est quand on se décide de faire un bourguignon à 11h30 du matin pour 13h, c'est quand même pas mal.
Ah, ça te prend comme ça,
oui,
toi.
Ça peut m'arriver. Bon. Mais par contre, l'avantage, effectivement, sur les légumes, même, je vois des carottes, des choses comme ça, ça va écraser parce qu'il y a cette surpression.
Catherine, essayez la marmite norvégienne et vous, Paul, la cocotte minute. Hein,
c'est pas incompatible.
Je ne sais pas comment se comporte le tofu à la cocotte minute.
Il y a des gens qui font chauffer, qui mettent à ébullition dans une cocotte minute pour que ça aille un peu au-dessus de 100 degrés, donc je ne sais pas, 110, 120. Et ensuite, ils mettent à la marmite norvégienne et donc ça cuit encore plus longtemps.
Merci beaucoup pour vos appels, Catherine et Paul, au 01 45 24 7000. Allez, un petit jeu, les amis. Selon une étude Ipsos de 2025, les Français et la gastronomie, savez-vous quels sont les plats mijotés des Françaises et des Français, les plats préférés des Françaises et des Français?
Il y a la blanquette,
le premier, non.
Le bourguignon.
Ah ouais. Pour 39% des Français. Deuxième, c'est vers chez moi.
Le couscous.
Non, le tagine.
Le cassoulet.
Vers chez moi, oui.
Non, mais parce que j'étais en train de le... Parce qu'à un moment, c'était un des plats préférés des Français.
Exactement, le couscous, vous avez totalement raison.
Qui est aussi mijoté. Hein.
C'est le cassoulet à 31%.
J'ai
on
ne
fera pas le débat entre celui de Castelnaudary et de Toulouse, parce que c'est évidemment celui de Toulouse qui est de Carcassonne. Et puis en troisième, la blanquette de veau. Alors, à propos de blanquette de veau, c'est l'un de vos plats préférés, Vincent Fernieu. C'est celui du commissaire Maigret, également, de Simenon, qui dégustait à la brasserie Dauphine à Paris. Selon l'excellent dictionnaire gourmand de Marie-Hélène Bellac, publié chez Omnibus, la blanquette concerne donc les viandes blanches. Alors d'abord le veau, et ça peut être aussi à base de volaille, cuisinée de telle sorte que ces viandes conservent leur blancheur. Alors on ne sait pas trop, on ne connaît pas trop l'origine de la blanquette. On ne sait pas si c'est une origine aristocratique ou plébéienne. Quoi qu'il en soit, le brouet de poulet médiéval pourrait être un ancêtre de la blanquette. En tout cas, c'est une manière d'accommoder les restes de rôti de veau avec une sauce blanche. Et on retrouve la première recette codifiée de blanquette de veau dans Le cuisinier moderne de Vincent Lachapelle en 1735. Alors vous, Vincent Fernieu, comment la préparez-vous, votre blanquette? Quels sont vos secrets? Comment ne pas rater sa blanquette de veau?
Alors, il y a deux façons de démarrer et une seule façon de finir. Soit on cuit directement, on blanchit en quelque sorte son veau dans un bouillon. Hein, on fait comme un pot-au-feu de veau au départ. Moi, j'avoue que j'aime bien la réaction de Maillard. J'aime bien colorer un petit peu le veau, c'est-à-dire le faire revenir avant de le mettre au bouillon, hein, pour que toute cette caramélisation, enfin cette réaction de Maillard, puisse donner du goût au bouillon. Ensuite, c'est une cuisson au bouillon avec les légumes que l'on met dans une blanquette, champignons avant ou après dans la sauce, dans la liaison. Mais le génie de la blanquette, c'est la liaison. J'avoue que j'aime la crème. J'aime la crème en cuisine.
Bienvenue au club.
Donc, la blanquette, c'est une ode à la crème, hein, au fond. Étant franc-comtois de nature, j'ai évidemment le poulet au vin jaune et au mori, mais on a francisé, on a fait une blanquette. Voilà, les franc-comtois ont laissé tomber le poulet au vin jaune pour laisser les Français manger de la blanquette. Et le plus important, c'est ça. C'est qu'après cette cuisson, quand le veau est à point, on va récupérer du bouillon de cuisson et on va faire un roux. Un roux blanc.
C'est-à-dire qu'au
fond, le beurre doit rester mousseux.
Farine.
Beurre farine, et qu'on va on va lier ce bouillon avec ce beurre fariné. Et ça, on va l'introduire. Alors, il y a deux choses importantes. Soit on y met du jaune d'œuf ou pas. On fait une sauce poulette, en quelque sorte, mais ce n'est pas nécessaire. Le plus important, c'est qu'une fois qu'on a fait cette liaison à la farine et au bouillon, il faut y mettre du jus de citron. Ah ouais. Parce que il y a une telle richesse avec la crème qu'on va incorporer aussi dans, dans cette liaison, il faut y mettre un coup de citron au dernier moment.
En fait, on a besoin d'un peu d'acidité, et donc je pense qu'il faut du jus de citron, et moi je rajoute même un peu de zeste de citron.
Ah, tu es comme
donner
ça,
un tout petit...
Alors, sur la volaille, oui, sur le veau, moi, je suis moins d'accord.
Et vous, Laurent Mariotte, dans votre livre, vous proposez une blanquette de chorizo et d'aigle fin. On peut donc faire une blanquette à base de poisson.
Exactement, dans mon almanach, je m'amuse à jouer avec le chorizo et l'aigle fin. Je cloute même l'aigle fin avec des petits dés de chorizo. Je fais revenir du chorizo et des oignons. Là, on va être sur un fumet de poisson pour avoir justement cette palette aromatique. Et on va pocher ensuite de l'aigle fin, qui est un poisson que j'aime bien. C'est celui qui devient ad hoc quand on le fume, et qu'un poisson abondant et abordable. Et effectivement, blanquette, c'est un terrain de jeu, la blanquette. Donc le waterzooi, on n'est pas loin de la blanquette.
C'est quoi le waterzooi ?
Le waterzooi, c'est un peu, la marmite du nord de Belgique et du nord de la France. Pareil, ça commence par un bouillon de légumes, et on va pocher notre poisson à la fin, et on mettra une crème. Quoi. Donc c'est tout simple.
Justement, à propos de poissons, Marité nous demande, y a-t-il des poissons que l'on peut cuisiner mijotés ?
Ah ben, il y a évidemment la lotte.
Oui, parce que c'est un poisson à chair très ferme. Le reste, il faut plutôt préparer, on va dire, l'ensemble, et rajouter le poisson sur la fin, parce qu'il risque de se déliter.
Cela dit, la bourrite sétoise, qui est un pot-au-feu de lotte, qui est lié à la fin avec un aioli, c'est-à-dire qu'on va épaissir à l'aioli, c'est un mijoté de poisson.
Et vous avez d'ailleurs, dans la table, une recette de lotte au poivron sauce tomate crémeuse.
Oui, qui est un grand classique. Qu'on oublie de faire. Et en fait, c'est vrai que c'est une recette qui est assez facile à faire. Alors, la lotte est un poisson qui n'est pas donné, il faut le dire, mais qui est très facile à cuisiner et qui peut effectivement remplacer la viande.
Un poisson qu'on ne peut pas remplacer par... on va pas se dire, tiens, je vais prendre du cabillaud ou du merlan.
Alors par contre, vous ne pourrez pas le cuisiner de la même manière. Parce que si vous faites cuire le cabillaud comme la lotte pendant une demi-heure, il va se déliter.
Il faut faire le bouillon d'un côté et plonger le cabillaud 5 minutes dans un bouillon à peine chaud.
Comme le waterzooi.
Et nous accueillons Patrick. Bonjour Patrick, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Ali, merci pour vos émissions et bonjour également à vos invités.
Bonjour Patrick.
Bonjour.
Alors Patrick, quel est votre plat mijoté d'enfance ?
Alors c'est le roumazave.
Oui.
C'est un plat malgache, c'est le pot-au-feu malgache.
Redonnez le nom.
Le roumazave. Alors ça s'écrit Romazavao.
Très bien.
Mais en malgache, on ne prononce pas le AO.
Ah bah non, en malgache, on ne prononce pas le AO.
On termine sur le V, le roumazave.
Et bien ça, alors, c'est quoi la recette ? Quels sont les ingrédients
recette,
de
base ? On fait
de
revenir des oignons avec les morceaux de viande. Alors moi, ce que je préfère personnellement, c'est la joue et le jarret qu'on découpe en gros cubes. Et une fois qu'on a saisi ces morceaux, on rajoute de l'eau, du bouillon de légumes, et on fait mijoter ça pendant 2h, 2h30 avec des tomates, ce qu'on appelle des bread mafane. Des bread mafane, c'est une petite plante avec des petites fleurs jaunes qu'on peut cultiver en France. Ça s'appelle en malgache des anamalao. Anamalao, ça veut dire...
Mais on ne prononce pas le AO, hein.
En tout cas, mais sérieusement, Patrick, je ne savais pas qu'on ne prononçait pas le AO. Donc j'ai appris quelque chose ce matin.
Anamalao. Et donc, ces petites brettes, c'est des petites fleurs, ça va faire un petit picotement sur la langue. Mais à défaut, on peut mettre des blettes 15 minutes avant la fin. Évidemment, on fait mijoter ça pendant 2h, 2h30. Je ne sais pas si j'ai dit qu'on mettait aussi de la tomate, un peu de tomate.
Des épices, j'imagine aussi, non ?
Alors la seule épice, on met sel, poivre et on met du gingembre, évidemment.
D'accord.
C'est le gingembre qui va donner ce goût particulier au bouillon. Et on sert ça avec du riz, un peu de purée de piment à côté pour ceux qui aiment, et un concassé de tomates et oignons coupés très très fins.
Merci Patrick. En tout cas, vous m'envoyez également un colis, une conserve. Vous connaissez l'adresse de la maison de la radio et de la musique. Donc voilà, merci beaucoup.
Pour les prêts de ma fan, je peux vous dire qu'on trouve ça dans les magasins asiatiques. Il y a une conserverie Caudal à Madagascar et on les trouve facilement en petits pots. C'est magnifique.
Merci
beaucoup. Est-ce que je peux faire une petite remarque à Laurent Mariotte ?
Oui, allez-y.
Attention, Laurent.
Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai naturé un mijoté.
Alors, Laura Mariotte parlait de son plat d'enfance qui est le pot-au-feu, et il utilisait, ou ses parents utilisaient, le paleron.
Oui.
Et moi, je veux signaler que ce morceau de viande, en découpé en steak, c'est une merveille.
Absolument. Quand il est,
il y a un nerf au milieu.
Non, bon, c'est pas un nerf, c'est un tendon. Hein, je préfère signaler. Voilà. Oui,
mais vous avez raison, c'est très très bon grillé. Absolument.
Merci beaucoup, Patrick, de nous avoir appelé au 01 45 24 7000. Alors, la réussite d'un plat mijoté repose sur la qualité des ingrédients, le temps de cuisson, on l'a dit, le tour de main du cuisinier et le fait de faire reposer le lendemain. Pourquoi les plats mijotés sont-ils encore meilleurs le lendemain? Pourquoi est-il nécessaire de laisser reposer sa blanquette, son bœuf bourguignon, sa loubia, hein, c'est ce plat du Maghreb à base de haricots blancs que j'aime beaucoup?
En fait, c'est un peu une légende. Il devrait être parfait le premier jour. Mais comme on ne veut pas consommer trop d'énergie, et dans les familles, c'était quand même le souci, et qu'on avait un feu qui n'était pas éternel, la sauce n'avait pas assez réduit souvent le premier jour quand on donnait à manger. Hein, le but était de donner à manger, pas de faire un plat gastronomique. Donc souvent, le lendemain, la sauce réduisait. Toute l'eau se retirait à la deuxième cuisson et on avait un jus plus serré. Mais aujourd'hui, avec nos techniques culinaires, on peut faire
même,
bien le premier jour.
Non, il y a une osmose, moi je ne suis pas d'accord. Il y a une osmose quand même.
Plutôt de l'équipe Mariotte, parce que j'ai l'impression que pendant la nuit, les arômes continuent à se mélanger, ce qui renforce les saveurs, et puis la texture des légumes ou de la viande se modifie également, c'est de la chimie culinaire.
Le temps de repos, oui, il y a un temps de repos après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en éteignant le four, effectivement, les saveurs continuent à s'échanger et infuser. Alors oui, au début, effectivement, on faisait moins réduire les jus et les sauces qui cuisaient les viandes, mais c'est vrai que je remarque moi quand même que le lendemain réchauffé, pareil, toujours à feu doux et ne pas être sur une chaleur vive et agressive, on a quand même un goût qui est encore plus prononcé, je trouve.
Tiens, beaucoup de questions sur la réussite du bœuf bourguignon. Comment le réussir à coup sûr? Qui veut se lancer?
Le choix des viandes. Mais alors, on parle de mijoté, c'est bien de rappeler aussi que les viandes, on les sort bien à l'avance du réfrigérateur. Mais quand je dis à l'avance, c'est pas une demi-heure, c'est au moins deux heures, en fait, pour qu'il n'y ait pas ce choc thermique et effectivement qu'il n'y ait pas cette rétractation des viandes. Donc oui, le choix des morceaux.
Quel morceau?
De la macreuse, du gîte, du jumeau pour le bourguignon.
Moi, je suis team joue de bœuf.
Ah bah oui,
mais alors là,
comment réussir la sauce onctueuse? Alors j'ai entendu, vous me dites si c'est mal de le faire, mais certains mettent un carré de chocolat noir dans la sauce.
Ouais. Pour arrondir, oui. Et jouer avec une petite amertume, effectivement, mais ça donne de la rondeur et de la brillance aussi.
Ouais. Alors, je suis étonné que ce soit le plat préféré des Français, parce que une sauce au vin rouge, c'est quand même assez clément. Tiens, je signale qu'aujourd'hui c'est la Saint-Vincent, merci d'ailleurs.
le patron des vignerons.
Oui, c'est pour ça que j'en parle, et je suis étonné que cette sauce au vin rouge, qui doit être extrêmement bien réalisée, parce qu'il ne faut pas qu'on garde un goût de vinasse, c'est pour ça qu'il faut que ça cuise longtemps, il faut que tout l'alcool se retire,
il faut le flamber
évidemment, et ensuite mijoter longtemps pour que les arômes du raisin fermenté, en fait, se marient formidablement avec les légumes et la viande. Mais la liaison va compter, donc on singe un bœuf bourguignon.
C'est-à-dire
qu'au départ, quand on fait revenir les morceaux de bœuf, quels qu'ils soient, le choix dépend de chacun, on va fariner.
Ah, pourquoi c'est important ça? En préparant cette émission, j'ai vu qu'il fallait, en règle générale, dans les plats mijotés carnés, fariner la viande.
On farine et la farine va cuire. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'elle va dorer. Hein, exactement comme on ferait un roux. Mmh. En fait, on fait un roux en singeant la viande. Singeant, ça veut dire fariner. Et c'est ce qui va, après, se répandre dans la sauce et va lier cette sauce, l'épaissir.
Et est-ce que vous êtes partisan d'un mélange beurre-huile quand on... début...
Ça permet... en fait, le mélange beurre-huile permet d'avoir une température à la plus élevée pour que le beurre ne brûle pas. En fait, c'est surtout ça.
Mais ça, pareil, il y a plusieurs versions sur ça. Il y en a qui disent que ça change rien. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que le beurre apporte une plus belle coloration que l'huile, quand même, je trouve. Donc oui, c'est bien de mélanger.
Oui, le goût.
Moi, j'avoue que dans le bourguignon, je mets une pointe parfois de sirop de cassis. Mais vraiment, juste une petite cuillère à soupe.
Moi, je fais les omelettes, mais c'est un peu la même idée, en fait.
Ouais. Tiens, j'aimerais qu'on fasse un petit point nutrition en 11h15 avec le professeur Boris Ancel. Bonjour, professeur Boris Ancel.
Bonjour, Ali. N'oubliez pas aussi un colis pour moi.
Vous êtes endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat et l'animateur promoteur de la chaîne publique PUMS sur YouTube pour une meilleure santé. Est-ce que tous ces plats mijotés roboratifs, est-ce que c'est bon pour la santé? Et deuxième question très importante, a-t-on vraiment besoin de plus manger l'hiver? Parce que c'est vrai que ces plats mijotés convoquent un imaginaire de réconfort. On se dit, voilà, il fait froid, je vais me lâcher sur les plats mijotés. Tout d'abord, est-ce que ils sont bons pour la santé? A priori, oui, c'est de la cuisine faite maison. C'est pas de l'alimentation ultra transformée, c'est plutôt pas mal.
Oui, alors les plats mijotés, ça peut être très bon pour la santé, comme vous le soulignez. Il y a dans un plat mijoté bien fait des protéines, des minéraux, des vitamines, des fibres. L'inconvénient, c'est qu'une cuisson très prolongée peut réduire un petit peu la stabilité de la vitamine C. Mmh. Mais bon, ça peut se compenser par une consommation de fruits. Il y en a aussi en hiver. Et donc, on peut
les
compenser ça. Mmh. Absolument, notamment les agrumes. Alors évidemment, comme toujours en nutrition, tout dépend de ce que vous mettez dedans. Si les ingrédients sont de bonne qualité et que vous limitez un peu la teneur en graisse, en sel... vous aurez des produits de très bonne qualité. Et puis, si vous ajoutez beaucoup de graisse saturée, beaucoup de sel, ben, vous allez un petit peu altérer la qualité. Mais ce qui est important, c'est que, voilà, plat mijoté ne veut pas dire mauvais pour la santé. Plat mijoté peut être très bon pour la santé. Et puis, encore une fois, ça dépend vraiment ce qu'on met dedans. J'ai bien écouté les recettes, notamment de Laurent Mariotte. Voilà, bon, il y a des choses qu'on va faire de temps en temps.
Dernière question, Boris Ancel. Est-ce que, quand on se dit, tiens, l'hiver, j'ai besoin de manger plus, il fait froid, il faut ingérer davantage de calories, et ça passe notamment par ces très bons plats et roboratifs plats mijotés. C'est quoi? C'est un besoin, un réel besoin physiologique ou un besoin psychologique de réconfort?
Alors, il y a les deux. Il y a les deux. En exposition au froid, eh bien, on va avoir des perturbations hormonales ou des modifications hormonales. Et en particulier, si on veut faire simple, la leptine et la gréline, qui sont des hormones qui agissent sur la faim et la satiété. On sait que la leptine, qui est l'hormone qui dit « voilà, j'ai assez mangé, je suis rassasié », eh bien, elle diminue quand on est exposé au froid. Et inversement, la gréline, elle augmente, comme si ça voulait dire à notre cerveau bah, « il faut manger un peu plus, il faut amener un peu plus d'énergie ». Alors évidemment, si on est dans un environnement très chaud, il n'y aura pas ces modifications. Si vous travaillez à l'extérieur, dans le froid, il y aura plus d'effets. Mais en tout cas, il y a un petit effet chez tout le monde. Et dernier point, oui, il y a aussi le côté réconfortant, parce qu'on sait que pendant la période d'hiver, beaucoup d'entre nous, on a un petit peu une humeur en berne. Ça, c'est moins d'exposition au soleil, voire la dépression saisonnière. Et donc là, on va être attiré vers des aliments réconfortants. Et dans l'inconscient collectif, ben, le chaud, le mijoté...
Ben oui, ce sont des antidépresseurs naturels.
Ce sont des antidépresseurs naturels. Et ça rappelle voilà, une bonne alimentation en famille, agréable, etc.
Il suffit de voir nos invités ce matin. Je peux vous assurer qu'ils ont vraiment la patate. Merci beaucoup, professeur Boris Ancel. On vous retrouve évidemment régulièrement dans Grand Main vous fasse. Allez, on se retrouve dans quelques instants, après avoir écouté Obong Jayar, Give Me More, 10h49 sur France Inter.
Am I in competition? Am I in first position? You say I'm all you're needing, then you just come up missing. Keep it consistent with me, baby, stop playing with me. Don't bring me down on my knees, I can't keep going like this. Give me more, I need more. 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 Give me more, more, more.
Jaillard, interprète. Ils sont très dissipés dans le studio, nos amis. Give me more.
France Inter. Aujourd'hui, nous avons le plat de côte, ou les paupiettes, ou le civet de lapin.
Ah, bah vous allez mettre des paupiettes en ouverture et un plat de côte.
Grand bien vous fasse.
Non, non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet, au lieu des paupiettes. Et puis, mon plat de côte après, quoi. Et puis, glissez-moi une petite paupiette avec, quoi.
Allez, Rébéi.
Ouais. Et ce matin, dans Grand Main vous fasse des conseils et des astuces pour réussir ces plats mijotés. Et tiens, une question de Pascal d'Angoulême qui nous demande dans les mijotés, il y a du vin, peut-on en donner aux enfants? Ma fille a 9 ans et je suis vigilante. Vincent Ferniaud, auteur du livre On veut des patates.
Alors tout à l'heure, Laurent l'a dit, on fait flamber, hein, par exemple pour le bourguignon. Faire flamber, ça veut dire que tout l'alcool va s'évaporer avant l'eau. Donc cet alcool qui s'évapore, flamber, ça veut dire qu'on va le consommer, en quelque sorte. Donc il n'y a plus d'alcool dans un plat qui a mijoté très longtemps. Hein, l'alcool s'en va. Ce qui reste, ce sont tous les éléments constitutifs du vin.
Aromatiques.
Aromatiques, à part l'alcool.
Beaucoup de questions également sur le bouillon. Est-ce que vous conseillez un type de bouillon particulier? Est-ce que les bouillons cubes peuvent faire l'affaire? Ou alors, si on a le temps, on peut faire son bouillon maison?
Ils sont très salés, les bouillons cubes. Ouais. Si on peut donner une marque, il y a une marque française qui est formidable, qui s'appelle Ariake. C'est des bouillons qui ont été mis au point par Joël Robuchon.
Japonais, au départ.
Mais c'est très bien. C'est très bien.
C'est entre 3 et 4 euros la boîte de plusieurs sachets de bouillon, mais c'est des bouillons qu'on peut même boire comme ça. Il y a une autre marque qui s'appelle Épure, qui est une marque française aussi. Donc voilà, moi j'aime bien avoir recours à ces bouillons.
Et il y en a une nouvelle qui s'appelle Umami. Donc effectivement, on voit de plus en plus de bouillons arriver.
Et chacun met sa marque. Moi, j'ai des petits gars que j'aime bien dans la région de l'Orléanais qui font Maison Bouillon, qui sont des bouillons liquides, qui ne sont pas des bouillons lyophilisés, qui sont vendus en bouteilles de 50 centilitres. C'est parfait.
Alors, dans notre équipe, nous avons deux collaborateurs originaires comme vous, Laurent Mariotte, de l'Est de la France. Ils m'ont spontanément parlé d'un plat alsacien typique. Le bake-off, j'espère que je prononce bien
le
Denis.
Le bake-off, yo-yo.
Denis, est-ce que j'ai bien prononcé? Bonjour Denis.
On ne prononce pas le yo.
Est-ce que j'ai bien prononcé bake-off?
Oui, c'est ça, selon le bake-off. Ouais, moi j'appelle ça comme ça. Il y a le puceau au nord, on appelle ça bake-off.
Et ça, c'est le plat que vous adorez?
C'est vrai, c'est le plat que je préfère, c'est le plat traditionnel paysan, quoi. Ouais. C'est déjà, c'est le plat en soi qui est très familial, c'est-à-dire c'est un grand plat en terre cuite qui est essentiellement fabriqué dans un seul village, à Soufflenac, c'est un petit un village qui est près, voilà.
Mais il y a quoi dans ce plat?
Alors, ben justement, il y a un peu, il y a tout.
Il y a trois viandes.
Alors, il y a trois viandes. Alors, il y a du bœuf, du porc, de l'agneau. Et bon, des parties, comme dit, légèrement gélatineuses, pas assez grasses.
Des viandes marinées dans le vin.
Qu'on fait mariner dans du vin sec plutôt, donc moi je le fais dans du sylvaner, que je fais la veille dans ce plat en terre, et avec un bouquet garni, et puis du genièvre qui donne un goût un peu particulier.
Je sais pas si on peut vraiment parler de mijoter. Là, on est à la frontière parce que c'est cuit à l'étouffée dans un plat fermé, lutté et au four.
Lutté,
ça veut dire qu'on met de la pâte à pain qui ferme en fait, qui permet de cuire en milieu clos.
Et les pommes de terre, on les met en même temps que la viande? On met tout en même temps?
Non, c'est-à-dire qu'on tranche tout en très fin, c'est-à-dire et on fait des couches, couches de pommes de terre, poireaux, carottes, oignons et les trois viandes. Et moi, pour rajouter encore un peu de collagène, ce qui se fait traditionnellement aussi,
pied de veau,
un pied de cochon, pied de cochon ou oreille de cochon par-dessus sur le plat avant de le fermer, de le sceller à la pâte à pain.
Merci beaucoup Denis pour votre recette, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui appellent. Et Émilie, pour vous le bake-off, ce sera pas pour vous. Bonjour.
Non, effectivement.
Vous êtes végétarienne.
Bonjour.
Vous êtes végétarienne.
Alors,
Je ne suis pas végétarienne, mais j'aime bien manger de temps en temps des plats végétariens, absolument.
Et vous appelez d'où, Émilie ?
J'appelle de Toulouse.
Ah, très bien, très très bien. Et alors, vous, votre plat mijoté préféré, c'est la ratatouille ?
Exactement, j'adore la ratatouille. Ma grand-mère l'a préparée tous les étés, parce que c'est un plat mijoté, mais de l'été. Et c'était absolument succulent, et effectivement, je me souviens qu'elle faisait mijoter ça de longues heures. Et parfois, elle avait la petite subtilité d'y rajouter des lardons fumés, n'en déplaise aux puristes. Ça donnait un goût vraiment... excellent, super, j'en ai une mémoire.
Ça s'entend, Émilie.
Très, très bon.
Et le secret de la ratatouille, c'est de cuire les légumes séparément, c'est ça ?
Oui, parce que chacun a son temps de cuisson. Chacun son temps de cuisson, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Et de les rassembler par une fondue de tomates qu'on a faite à part aussi. On réunit tout le monde, effectivement, cuit à part dans de l'huile d'olive. Ouais.
Merci
ça, c'est la niçoise.
Merci beaucoup, Émilie. Et on termine avec vous, Karine. Bonjour.
Oui.
Vous appelez d'où, Karine ?
Bonjour Ali.
Bonjour.
J'appelle de Lyon. Bonjour à tous et toutes.
Bonjour.
Bonjour.
Et vous aimez les mijotés improvisés, c'est ça ?
Alors moi, j'aime cuisiner de manière générale, de manière improvisée. Et les mijotés en font partie, effectivement, en hiver, je précise. Et j'ai la chance d'avoir un poêle sur lequel je fais des mijotés au feu de bois. Et je profite de cette chaleur et de cette inertie de mon poêle pour faire des mijotés improvisées avec ce que j'ai.
J'ai l'image en tête, Karine, de cette cocotte sur votre poêle en fonte. Ça me fait rêver.
Oui, là, c'est tout à fait ça. Et je laisse cuire toute la nuit quand le feu est beaucoup plus bas, et ça fait de la cuisson basse température et de la longue durée, donc basse température, longue durée, énergétiquement, c'est plutôt intéressant, et gustativement aussi.
Et vous aimez faire des mijotés improvisés à quoi en ce moment ?
Alors en ce moment, j'aime bien parce qu'il y a le cidre, c'est plutôt sympa aussi. Et utiliser le cidre avec des bons morceaux de viande et des légumes que j'ai de saison, bien évidemment, avec des bouillons que je fais moi-même. Et c'est plutôt sympathique de laisser mijoter et de découvrir la surprise.
Merci Karine, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci de nous avoir donné faim. Merci Laurent Mariotte, Une année en cuisine. C'est publié chez Solar.
Ouais, il y a plein de mijotés dedans. Ouais.
Merci Vincent Fernion. On veut des patates. Le cri du cœur.
Avec la blanquette de patates.
Blanquette de patates. Chez Albin Michel. Merci Daniel Jerkens. Le numéro de Elle à table consacré aux plats mijotés est disponible en kiosque. Je recommande également la lecture du livre de cuisine Cocotte, tour du monde des plats mijotés du Britannique Xavier Bramble chez Solar pour changer de la blanquette et du bœuf bourguignon. À suivre Nagui et sa bande originale.